10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et c'est un plaisir que de vous retrouver tous les samedis matin en direct avec l'imam Abdelali Mamoun qui a de très belles nouvelles lunettes, il faut le dire.
Son nouvelle, celle-là
ouais, non. On dirait les lunettes de Serpico.
Serpico, ah oui, le fameux inspecteur.
C'est des Ray-Ban que vous avez
Non, c'est des lunettes de vue pour lire.
Ah oui, d'accord.
Parce que je suis presbyte.
Ah oui.
Voilà.
Bon, bah, ça va.
En vrai, mes lunettes sont là.
Alors, vous avez deux paires de lunettes.
Voilà, celle-là, c'est celle que j'ai amenée sans faire exprès de la maison, parce que je travaillais dessus.
D'accord. Et ça, ce sont vos lunettes pour la ville.
Pour la ville, mais surtout pour le soleil, parce que celle-là,
elle fonce.
Elle fonce au soleil, voilà.
Bien.
Mais pas en voiture, c'est-à-dire, c'est pas elle roule vite.
Non.
Elle devenir foncée.
Quand vous avez les rayons du soleil qui tapent sur le visage.
C'est vrai que le même mot peut être utilisé à deux sens totalement différents.
Ce qui est compliqué pour des étrangers, par exemple, d'apprendre la langue française, parce qu'on a, pour un même mot, il y a plein de significations. Mais c'est vrai aussi pour l'arabe, parfois.
Oui, tout à fait.
Parfois, un même mot peut avoir plusieurs sens.
Tout à fait.
Et donc, peut nous induire en erreur. Alors, vous pourrez poser vos questions en direct au 01 53 48 3000. Mais on va s'intéresser ce matin à un des quatre mois sacrés du calendrier musulman, Imam Abdelali, c'est le mois de Rajab.
Oui, tout à fait. Nous venons d'entrer dans ce mois sacré qui est le mois de Rajab, qui correspond au septième mois du calendrier lunaire, du calendrier égyrien. Donc, je rappelle à nos auditeurs et auditrices ce que signifie ce calendrier lunaire. Il correspond à 12 cycles lunaires. Vous savez que la Lune, elle grossit, elle rétrécit, elle disparaît, elle réapparaît, ensuite elle regrossit, jusqu'à qu'elle devient pleine Lune, et ensuite et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des cycles lunaires. Eh bien, pour faire une année lunaire, il en faut 12. 12 mois. Le Coran est clair et explicite en la matière. Puisque il dit inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahra, le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois fi kitabillah, dans le livre de Dieu, yawma khalaqa as-samawati wal ard, le jour où il a créé les cieux et la terre, minha arba'atun hurum, donc 4 sont sacrés, dhalika ad-din al-qayyim, ceci est la religion la plus droite. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, ne commettez pas d'injustice envers vous-même durant ces mois. Donc voilà combien donc ces mois ont une considération très importante aux yeux de l'islam, et c'est un héritage anti-islamique qui a continué à être approuvé et soutenu par l'islam. Il existe un certain
nombre. Le calendrier lunaire est antérieur à l'apparition de l'islam, c'est ça?
Tout à fait, mais il y a plein de choses que l'islam a adoptées, des pratiques ancestrales et qui existaient avant l'avènement de l'islam et que l'islam a adopté après son avènement. Et donc l'islam n'est pas venu, on va dire, effacer et remettre, recommencer tout à zéro. Non, il y a un certain nombre de choses qui ont été récupérées, on va dire recyclées entre guillemets. De l'héritage culturel ancestral des Arabes, et c'est donc ces quatre mois sacrés dans lesquels les Arabes respectaient une trêve, puisque comme on le sait, l'Arabie était une région du monde qui ne cessait de s'entre-déchirer, des batailles, des guerres constamment, les Arabes se battaient, des guerres qui duraient 40 ans, des guerres dans tous les coins, dans le nord, dans le sud de l'Arabie, dans le centre, on connaissait qu'il y avait des tribus arabes qui n'arrêtaient et qui ne cessaient de s'entretuer et qui interrompaient justement ces batailles et ces guerres durant ces quatre mois sacrés. Donc ils connaissaient ces mois sacrés, Rajab, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja et Muharram.
Mais même s'ils ne sont pas collés, en fait. C'est-à-dire qu'en fait,
il y en a trois collés.
Oui, il y en a trois collés, mais il y en a un qui est isolé.
C'est celui-là.
Voilà.
C'est celui-là.
Mais ce qui veut dire que, par décret, il ne pouvait pas y avoir de guerre.
Voilà, c'était officiel. Personne ne pouvait. C'était la période où on faisait une trêve et on l'appelait souvent Rajab Amudar. C'est un surnom que l'on donne à ce mois, Rajab Modar. Qu'est-ce que ça veut dire, Rajab Modar? Ça veut dire c'est le Rajab de la grande tribu des Modar. Alors, qu'est-ce que c'est que Modar? L'Arabie Saoudite, on peut dire, la péninsule arabique, pas l'Arabie Saoudite, on va dire la péninsule arabique, où se trouve le royaume
aujourd'hui
d'Arabie Saoudite. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas que, y compris, on intègre les Émirats, le Bahreïn, le Qatar, etc., le Koweït. Tous ces pays-là, qu'on appelle les pays du Golfe, le golfe du Persique, ainsi que toute la péninsule arabique, était divisée en deux grandes régions. La grande région de la tribu de Rabi'a, qui est la tribu qui se trouvait à l'est de l'Arabie, c'est-à-dire qui avait comme côte, la côte, de la mer, c'était celle du golfe du Persique, donc celle qui est en face de l'Iran. De l'autre côté, les Modars, hein, tous les Modars qui, eux, se trouvaient à l'ouest de l'Arabie et qui avaient comme, comme côte, c'est la mer Rouge, hein, la mer Rouge, que l'on connaît, la mer Rouge. Donc, c'est toute la région ouest de l'Arabie. Les Modars étaient à l'ouest, les Rabi'a étaient à l'est. Et Rabi'a et Modar, dans l'histoire, ce sont deux frères, qui sont descendants de Adnan. Et qui lui-même est descendant de Ibrahim, donc d'Abraham, le prophète Abraham. Donc le prophète qui est un Modari, du coup, il faisait partie de la tribu des Kinana, des Kinaniyin de Quraysh, les habitants de la Mecque. Quraysh ibn Kinana, donc Nadr ibn Kinana, ibn Khuzaym ibn Mudrika, ibn Ilyas ibn Modar. Modar, voilà, c'est l'ancêtre. Ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Donc Adnan, c'est l'ancêtre, le plus ancien ancêtre connu des Arabes qu'on appelle les Arabisés, Al-Musta'ariba.
Adnan.
C'est même un prénom, hein, oui, chez les Maghrébins. Oui. Il y a des Arabes qui se font appeler Adnan en référence à l'ancêtre de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'un des enfants, des descendants de Ibrahim, de Ismaël, fils de Ibrahim.
D'accord.
Ismaël est venu s'installer en Arabie et l'un de ses descendants s'appelait Adnan. Et Adnan est le 20e grand-père du prophète. Donc quand on cite Mohammed, à partir de son père Abdullah,
quand on fait la lignée,
lignée, il y en a 20. Abdullah ibn Abdul Muttalib. Alors ibn, ça veut dire fils, hein, d'accord. Ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr. Hada Nadr, son deuxième nom c'est Quraysh. Ibn Kinana, donc les Kinaniyin, les fameux Kinaniques de l'ouest de l'Arabie, de la Mecque. Ibn Kinana, ibn Khuzaima, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar. Voilà, Mudar, la grande tribu,
d'accord,
des Mudar.
Ouais.
Ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan, l'ancêtre. Et ensuite, Adnan, descendant de Ismaïl, alayhi salam, ibn Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Donc, voilà.
Là, tout en haut, on a Ibrahim.
On a Ibrahim, voilà. qui est ce qu'on appelle un Assyrien. Donc, Ashuri, ou c'est descendant des Assyriens. Donc, c'est un Ashuri, qui n'est donc pas un descendant, qui est descendant de Sam, de Sam, fils de Noé. Et Noé, bien sûr, on sait qui c'est, le patriarche de l'humanité, puisque à son époque, les seuls habitants sur Terre étaient la tribu de Noé. Donc, seules trois grandes familles ont perduré après la mort de Noé. Ce sont les enfants de Sam, de Ham et de Yafeth. Donc chacun a répandu la population humaine sur Terre, chacun dans une région. Il y en a à l'est, il y en a à l'ouest, il y en a qui sont partis dans le sud, vers l'Afrique, etc. Voilà pour ce qui est. Et les Sem, donc du Sem, ce sont tout ce qu'on appelle les Sémites. Donc les Cananéens, les Sumériens, les Assyriens, ce qu'on appelle et puis les Arabes, les Hébreux, etc., etc., sont des sémites. Donc c'est pour ça que quand on dit l'expression antisémite, qui est aujourd'hui réduit
c'est incorrect.
C'est correct.
Sauf qu'elle est mal utilisée.
Non, elle est bien utilisée puisqu'on parle des juifs qui sont sémites. Donc si tu es anti-juif, tu es antisémite. Mais si tu t'en prends à un arabe, t'es aussi antisémite puisque tous les arabes eux aussi sont des sémites.
Oui, sans aucune... Elle est mal utilisée. Donc en fait,
il y a une sorte de monopole qui a été faite par la. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, on a utilisé ces mots-là en France. Ceux qui étaient persécutés, c'était les juifs. Donc on disait, pour ne pas dire le mot juif, on disait
antisémite. Donc sémite, ça vient de Sem.
Ça vient de Sam. Voilà, Sam. S-E-M en français.
Oui.
Sam, que vous allez sur Internet. Sam, fils de Noé. C'est l'ancêtre de tous ces fameuses tribus que je viens d'évoquer, les Cananéens, etc., etc.
Bon. Revenons sur le mois de Rajab.
Donc, alors, Rajab à Modar. Pourquoi Modar?
Septième mois.
Modar, c'était la seule tribu qui respectait la trêve de Rajab. Et qui ne s'amusait pas à falsifier l'histoire. Et du moins le calendrier. Puisque les autres tribus s'autorisaient à remplacer un mois par un autre. Par exemple, ils disaient Sha'ban à la place de Rajab et Rajab à la place de Sha'ban. ou bien Jumada, le Jumada 2, qui est le sixième mois du calendrier lunaire, il disait, il l'appelait Rajab. C'est, donc Rajab devenait Jumada et Jumada devenait Rajab. Pourquoi ? Pour se permettre de perpétrer et de continuer
à guerroyer.
À faire guerroyer. Ouais. Donc on disait, ah ben non, c'est pas Rajab. Nous, on respecte Rajab, mais là, on n'est plus Rajab. On a décrété que ça serait pas Rajab. Donc ils inversaient. Et Dieu a considéré ça comme une des plus grandes mécréances. Innama an-nasi uziyadatun fil kufr. An-nasi, c'est justement l'expression de le fait de transférer, de remplacer un mois par un autre mois sur simple décret qui était décrété par le chef d'une tribu qui voulait et qui souhaitait continuer à guerroyer contre une autre tribu contre laquelle elle avait de la haine et de la rage. Mmh. Donc voilà pour ce qui est de ce mois que l'islam et que Dieu de bien avant et que les Arabes connaissaient comme étant un mois sacré. Modar, la grande tribu de Modar respectait cette sacralité du mois de Rajab et l'islam a perduré ce statut de mois sacré. Sauf que après le pèlerinage d'adieu, il y a eu un pèlerinage d'adieu où le prophète a fait son fameux sermon lors du il a parlé des 12 mois sacrés, des 12 mois de l'année et il a parlé des 4 mois sacrés, mais il a dit que la trêve, du moins cette période de trêve, hein, où on arrête de faire la guerre, eh bien, ne se limitait pas aux 4 mois, mais aux 12 mois de l'année. Et c'est justement quand il dit inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, vos sang, vos vies, c'est-à-dire vos biens et vos dignités, vos honneurs, c'est-à-dire ou bien votre arad, ça veut dire la dignité, le fait de s'en prendre à la femme d'une autre, parce que quand il guerroyait, c'était quoi? C'était des tribus qui battaient une autre armée et il en profitait pour tuer les hommes, pour tuer ceux qu'ils avaient envie de tuer et s'en prendre aux femmes et violer les femmes, etc. Et il disait qu'on a le droit puisqu'on a gagné la bataille, vous êtes maintenant nos esclaves, les femmes devenaient des esclaves, etc., etc. Eh bien, pendant la trêve, c'était interdit de faire ça, pendant les 4 mois, jusqu'à l'avènement du prophète Mohammed sallam, où il a dit non, c'est pas 4 mois, c'est 12 mois, c'est fini. Nous instaurons le califat, cette fameuse notion de califat, d'établissement. Non, attention, pas dans le sens péjoratif ou du moins folklorique que nous le décrit aujourd'hui la télévision occidentale avec calife, c'est-à-dire un gars avec un turban et un gros bijou sur le front ou je sais pas quoi et avec des esclaves, etc. Non, c'est pas ça. Le califat, c'est celui qui fait régner l'ordre, c'est-à-dire une nation dans laquelle il règne l'ordre. Où le faible est protégé du fort, où il règne pas la loi de la jungle, ça s'appelle le califat. Contrairement où la loi des animaux, la loi de la jungle, le fort constamment s'en prend au plus petit que soi. Eh bien, en France, dans le monde, les nations ont imposé le califat. Que ça s'appelle un royaume, que ça s'appelle une république, que ça s'appelle un sultanat, que ça s'appelle une démocratie, peu importe. L'important, c'est que règne l'ordre. Eh bien, ça, en arabe, ça s'appelle le califat. Quand Dieu dit à ses anges qu'il va désigner sur terre un calife, un califat, c'est-à-dire un vicaire, quelqu'un qui va garantir l'ordre et la justice sur terre. C'est cet ordre et cette justice-là que va imposer l'ordre établi par l'homme, c'est l'homme qui établit, et au nom de Dieu, il le fait au nom de Dieu. Bon, il y a certains pays qui disent non, on va pas le faire au nom de Dieu, c'est les États laïcs qui disent que nous, on le fait au nom de l'humanité, au nom de l'humanisme, au nom des valeurs universelles. C'est très bien, ça nous convient tout à fait, même si ça convient pas à d'autres, et c'est même, pour moi, hein, l'axe qui distingue le radicalisme de l'islam éclairé, de l'islam authentique, de l'islam vrai. Pourquoi ? Parce que ces radicalistes vont chipoter sur l'origine de la valeur. Les occidentaux qui disent voilà, ce sont des valeurs universelles qui nous ont été, on va dire décrétées par des grands philosophes, des grands intellectuels occidentaux tels que Voltaire, de Montesquieu, Rousseau avec le contrat social, etc. Ils vont dire cela n'a rien à voir avec Dieu, mais en vrai tous ces personnages là. Ne pratiquaient que le plagiat. C'était du plagiat de la Bible, puisque toutes ces valeurs universelles sont des valeurs divines, sont des valeurs religieuses à l'origine. Ils n'ont fait que reprendre ce qui, finalement, leur conscience leur disait, oui, c'est vrai, cela constitue, si on les applique, le bien, alors que si on applique le contraire, cela constitue le mal. Donc tout cela, toutes ces valeurs-là que l'on retrouve dans les valeurs universelles, ou les valeurs républicaines en français, en France, eh bien ce sont des valeurs islamiques, donc on n'a pas besoin de guerroyer ou d'organiser une rébellion, ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme, au nom de l'islam, pour contrecarrer quelque chose qui est compatible avec l'islam. Pourquoi tu vas t'attaquer à la République et ses valeurs, alors que ce sont les mêmes qu'il y a dans le Coran et dans le message du prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où le bas blesse.
Bien, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h et vous pouvez poser vos questions au standard au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Il y a 39 ans, disparaissait l'un des plus grands poètes chanteurs kabyles, Slimane Azem. Tout au long du week-end, Beurre FM lui rendra hommage. Ne manquez pas, samedi à 20h, le mix kabyle 100% Slimane Azem. Hommage à Slimane Azem, la voix de l'exil, tout au long du week-end, sur Beurre FM. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon.
Voilà, donc vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. On va prendre vos appels dans un instant. Spécial anniversaire, imam Abdelali, aujourd'hui.
Oui, c'est l'anniversaire de ma Daya, donc Daya, ma petite fille.
Qui a 9 ans aujourd'hui.
Bon anniversaire, Daya.
Happy birthday, parce qu'elle parle anglais maintenant.
Vas-y, Daya, tu veux parler, dire un mot dans le micro? Vas-y, tu peux lui brancher. Dis salam alaikum.
Salam alaikum.
À tout le monde. Merci pour tous ceux qui me souhaitent un joyeux anniversaire. Bah, dis-le.
Merci.
Alors, merci. Ouais, vas-y.
Merci Allez. Pour tous ceux qui me souhaitent un joyeux anniversaire.
Eh, voilà, tu vois. Tu fais de la radio maintenant. Imam Abdelali, il y a d'autres surnoms, hein, d'ailleurs, de ce mois de Rajab qu'on évoque.
Oui, tout
ce
à
matin.
Fait. Ouais. Alors, par exemple, tu as un des noms qu'on appelle le mois de Rajab, c'est le mois de. Qu'on appelle Munassil al-Assinna, c'est-à-dire le mois où est-ce que l'on va retirer les pointes des flèches, les pointes des flèches et des lances.
Ouais.
C'est-à-dire c'est l'équivalent de ce qu'on appelle enterrer la hache de guerre. Tu sais, la hache de guerre, c'est on va enterrer le bout de la hache là où il y a
quand on enterre la hache de guerre, ça veut dire qu'on fait la paix d'une certaine
voilà,
façon.
Voilà, c'est ça. Pendant ce mois-là, c'est la trêve. Mmh. Donc on jette, ou du moins mon assel, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de la pointe des flèches et des lances pour dire voilà, nous ne ferons de tort à personne, nous ne chercherons pas à nuire à personne, nous n'utiliserons pas nos armes contre une personne, puisque nous avons débarrassé nos flèches de leur pointe qui est bien sûr la partie qui blesse et qui tue. Donc c'était ce que faisaient les Arabes, on appelle ça Munassil al-Assinna. Donc pendant ce mois-là, il s'est passé pas mal de choses, hein. Par exemple, la conquête de Jérusalem a eu lieu pendant le mois de Rajab. La bataille de Tabouk, qui est la toute dernière expédition organisée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste un peu avant sa mort. Et aussi, ainsi que, bien sûr, l'événement de l'Isra ou l'Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension et le voyage nocturne de la Mecque jusqu'à Jérusalem, et ensuite de Jérusalem vers les sept cieux au moyen de cet animal ailé, de ce cheval ailé qu'on appelle Al-Buraq, dans lequel le prophète a réalisé cette élévation vers les sept cieux. Et donc ceci a eu lieu le 27e jour du mois de Rajab. Donc le mois de Rajab est un mois sacré, est un mois très très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que de commettre un acte d'injustice durant un mois sacré est plus grave que de commettre cette injustice en dehors d'un mois sacré. Donc c'est ô combien, en plus de commettre une turpitude, un acte détestable, un acte d'agression, un acte injuste envers quelqu'un, en dehors du Ramadan, c'est déjà très grave. En dehors du mois de Rajab ou du mois sacré en général, c'est déjà grave. Mais en plus de le faire pendant le mois du mois sacré, est encore plus grave que de le faire en dehors. Mais globalement, bien sûr, cette règle qui constituait à c'est-à-dire respecter une trêve a été abrogée par le serment d'adieu, qu'à partir de cette date-là, ce n'est plus seulement la trêve, mais définitivement l'armistice, c'est-à-dire fini les guerres entre les Arabes, entre les tribus, fini les agressions des tribus envers les autres, plus personne n'avait le droit de s'en prendre à un plus faible que soi. On impose le califat, on impose l'ordre, on impose un régime gouvernemental avec des institutions composées de walis, c'est-à-dire de préfets, dans lequel on instaure des wilayas, c'est-à-dire des préfectures, avec des qadis, avec des tribunaux, des juges, des procédures judiciaires, le respect exactement. C'est le début de la civilisation arabe. C'est le début de l'avènement de la lumière divine qui vient répandre l'amour et la paix entre les hommes sur terre avec l'avènement du prophète. Et pour cela, le prophète, pour dissuader, pour convaincre les malveillants, ceux qui pourraient être tentés par le diable de commettre ces turpitudes, il a légiféré le jihad, il a légiféré l'instauration d'une armée régulière composée de soldats qui sont formés, qui sont éduqués, qui sont informés aussi de ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Ils sont sous l'ordre d'une hiérarchie, avec des officiers, etc., avec des chefs. Donc, il leur disait, voilà, de respecter un certain nombre de règles universelles, et de ne pas commettre, par exemple, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, de s'en prendre aux prisonniers, de s'en prendre aux femmes, de brûler des maisons, de couper les arbres, etc., etc. Tout cela était proscrit, est interdit, même quand il s'agissait d'un ennemi qu'on l'on combattait au nom d'Allah. Aucune agression au nom d'Allah peut justifier ce genre de turpitude. Quand on fait la guerre, on doit respecter la loi, les lois de la guerre, les lois martiales, et ne pas transgresser en commettant des crimes de guerre. Les crimes de guerre ne sont pas justifiés, même s'il s'agit de guerre. On ne tue pas, on n'assassine pas, on n'exécute pas des prisonniers alors qu'ils ont baissé les mains et ils ont ce qu'on appelle rendu les armes et brandi un drapeau blanc, etc. Voilà, toutes ces règles-là devaient être respectées dès l'avènement de l'islam, et seuls ceux qui voulaient agresser le prophète envoyait contre eux une expédition pour les dissuader de commettre des turpitudes. En aucun cas, je répète, en aucun cas, il a été question de conquête au nom simplement de répandre l'islam. C'est faux. Ces conquêtes avaient pour objet de libérer les populations de l'oppression de leurs dirigeants, mais pas pour imposer l'islam ou propager l'islam. Il n'est pas question que, au nom d'Allah, on vienne imposer la religion musulmane à autrui. Je répète que toutes ces conquêtes, qu'on appelle en arabe futuhat, c'était pour libérer le peuple de l'oppression de l'Empire romain, de l'Empire perse, de l'Empire, par exemple, copte égyptien, donc copte, etc. Tous les royaumes et empires qui étaient autour de la péninsule arabique. Voilà.
Alors, on a Elisa au 01 53 48 3000. Elisa, bienvenue.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, Elisa.
En fait, voilà, je vous attaque car j'ai une question à vous poser. Voilà, en fait, au mois d'avril, ça sera le Ramadan, Inch'Allah.
Oui, le 3, Inch'Allah.
Ce mois-là, je vais rentrer dans mon 8e mois de grossesse. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que je pourrais jeûner ?
Madame.
J'ai posé la question à la gynéco. Elle m'a dit, c'est vous et votre santé, si vous vous sentez capable. Et voilà. Et j'ai dit, je vais demander à... Je vais vous poser la question.
Alors, je répète à vous, comme je l'ai déjà répété à maintes reprises pendant les mois de Ramadan, mais c'est toujours pertinent de poser la question à l'avance pour avoir une réponse claire. Voilà. Vous attendez de voir votre état de santé. Et surtout de ne en aucun cas mettre en péril la vôtre ou celle de votre bébé pour pratiquer le jeûne du Ramadan. S'il y a moindre doute, un moindre risque pour vous, pour votre enfant, vous n'avez pas le droit de jeûner. C'est pas vous pouvez ne pas jeûner, vous n'avez pas le droit de jeûner. Parce que si vous jeûnez malgré ça, malgré qu'on vous ait mis en garde contre le jeûne et que votre enfant lui arrive quelque chose, vous êtes coupable d'homicide involontaire, mais quand même. D'accord. Faut pas au nom de la religion faire d'excès de zèle, hein, l'ifrat comme on dit, le fait il va s'endurcir la vie pour soi-disant respecter un précepte de l'islam. Je rappelle à tous nos auditeurs et auditrices que la vie prime sur tout. Je le répète, préserver la vie, préserver les risques. Et prévenir les risques qui pourraient c'est-à-dire mettre en danger la santé ou la vie d'une personne prime, je répète, sur tout. Même sur le fait de boire de l'alcool, sur le fait de même un cœur, de prendre, de mettre un cœur de porc dans son, dans sa poitrine, de prendre des médicaments haram. Tout est autorisé quand il s'agit de préserver la vie. À condition qu'il n'y ait pas d'alternative. Par exemple, si on a un cœur, je donne un exemple, un cœur humain qui pourrait faire l'affaire pour greffer un humain qui a besoin d'une greffe de cœur, il existe des greffes d'êtres humains que l'on enterre tous les jours. Pourquoi aller chercher un cœur de porc alors qu'il existe des cœurs d'êtres humains? Donc je répète que les greffes d'organes sont halal en islam, il n'y a aucun problème. Et il n'est pas intelligent que de rédiger une lettre ou je ne sais pas quoi, une attestation refusant que l'on prenne ces organes pour qu'elles puissent être greffées sur des malades du rein ou bien du foie ou bien du cœur. C'est donner la vie à quelqu'un qui a besoin de vivre, puisque de toute façon vos organes, vous les donnez à qui quand vous êtes enterré? Aux asticots, hein. C'est les petites bêtes qui vont les bouffer. Qu'est-ce qui est plus intelligent? Les donner à des asticots ou permettre à quelqu'un de vivre, d'arrêter de faire ce qu'on appelle, par exemple, le dialyse. Les gens qui sont en insuffisance rénale, qui ont besoin d'une greffe de rein, et ben pendant l'attente d'un rein, ils sont obligés de faire des dialyses. Deux fois par semaine, ils doivent purifier leur sang. Et donc, ils vont à l'hôpital et c'est très douloureux, c'était très contraignant. C'est un enfer pour ces gens-là. Et ceux qui m'entendent qu'Allah il les guérisse, inshallah, qu'il leur donne un prompt rétablissement, je rappelle à tous ceux et toutes celles qui vont mourir un jour, et tout le monde va mourir un jour, de ne pas écrire de lettre interdisant que l'on récupère les organes pour qu'ils soient utilisés à bon escient. Bien sûr, à bon escient, pas pour faire n'importe quoi. On ne doit pas mutiler un corps gratuitement. C'est interdit de mutiler un corps gratuitement. On fait ça intelligemment par des médecins qui vont procéder à l'ablation de l'organe pour le greffer sur un autre malade qui en a besoin. Et tout ça, on le fait dans le respect des règles déontologiques de la médecine. Bon. Donc, il n'y a aucun problème que de faire cela.
On s'éloigne un peu du sujet.
Oui, en tout cas, je dirais à ma sœur, voilà, si votre état de santé vous ne permet pas de jeûner, vous ne devez pas jeûner. Donc, c'est votre gynécologue qui va décider. C'est pas vous. Vous prenez pas la décision à la place du gynéco. Vous vous dites, voilà, vous pouvez essayer un jour ou une journée dans la journée. Si vous voyez que ça va pas, vous arrêtez tout de suite, vous buvez de l'eau et vous cassez, vous mangez, etc. Moi, je rappelle à toutes les femmes qui ne sont pas concernées par le jeûne à cause d'une grossesse ou à cause des règles, etc. Elles sont pas obligées de se cacher excessivement pour manger. Elles ont le droit de manger, elles ont le droit de boire. Le voyageur, pareil, il a le droit de manger. Moi, dans l'avion, il y a des gens, ils ont honte pendant le voyage de recevoir le plat de l'hôtesse de l'air. Il y a aucun problème. Vous êtes en voyage. Le Coran nous dit clairement: "Faman kana minkum maridan", celui qui est malade, "aw ala safarin", ou en voyage, "fa'iddatu min ayamin ukhra", il peut ajourner son jeûne à une date ultérieure. Et il n'est pas nécessaire que son voyage soit difficile, compliqué, insupportable pour être autorisé à ne pas jeûner. Non, qu'il soit supportable ou pas, à partir du moment où tu es voyageur, tu as le droit de ne pas jeûner. Voilà.
Voilà, Elisa, merci pour votre question. Nous avons Sofiane qui est avec nous au 01 53 48 3000. Sofiane. Sofiane.
Salam alaikum, ya Sofiane. On t'écoute,
oui,
Sofiane.
Bonjour, salam alaikum. Je à la petite.
Merci, merci.
Ma question, je vais la poser très rapidement parce que je suis au travail. Allô,
vous m'entendez? Alors, on vous écoute,
Sofiane. D'accord, très bien. Donc, ma question, c'est ma grande, en fait, qui m'a posé une question et voilà. J'arrivais pas à lui répondre. Enfin, j'ai répondu, mais avec mes mots. Donc, j'aimerais bien que vous me répondiez à cette question qui a été déjà posée d'ailleurs. C'est par rapport à Adam et Hawa. Voilà. C'est en fait comment on s'est tuplé en fait dans ce monde, voilà, alors que je voudrais que vous me parliez des dérogations qu'il y avait, voilà. Donc
je comprends pas la question.
Bah, j'ai compris.
OK.
Adam et Ève, et donc j'ai pas compris.
Dans ce monde, en fait,
ouais, vas-y, termine.
Comment ça s'est passé qu'on s'est peuplé, en fait, alors que normalement les enfants, des frères et sœurs, ils peuvent pas avoir des enfants, voilà.
Ah, d'accord. Marier,
voilà. Vous voyez, je sais pas si vous m'avez compris maintenant.
Ouais, voilà. C'est ce qu'on appelle l'inceste. Ils ont pratiqué l'inceste avec le frère et la sœur. Bah, exactement. C'était le tout premier mariage, bien sûr.
Exactement,
c'était le tout premier, mais même les enfants de Shith, hein, ensuite, hein, puisque à ce qu'on appelle Habil et Qabil, donc Habil qui a été tué, Abel qui a été tué par Caïn, les deux n'ont pas eu d'enfants. Dieu n'a pas permis à Caïn d'avoir des enfants après Abel qui est mort et assassiné par son frère. C'est un troisième fils que Adam et Ève ont eu qui s'appelle Shith, qui lui a donné la suite des générations à l'humanité. Donc Chiss a eu lui-même des enfants, garçons et filles, des jumeaux et des jumelles qui se sont mariés de la jumelle de son frère, etc. Et c'est ce qui était la seule chose autorisée. La seule pratique d'inceste autorisée, puisque sans cela, on n'aurait jamais pu avoir, bien entendu, de descendance. Comment tu veux qu'on fasse? Si c'est les seules créatures sur Terre, un est né avec une jumelle, un garçon est né avec une jumelle, l'autre avec une autre jumelle, et bien entendu, chacun se marie avec la jumelle de son frère. Donc finalement, c'est un petit peu comme des cousins, sauf que là, c'est les mêmes parents parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il n'y avait pas le choix.
D'accord. Donc on n'avait pas le choix, c'est ça, voilà.
Bah oui, bien sûr, on n'avait pas le choix. Qu'est-ce que tu veux, comment tu veux qu'on fasse?
C'est juste ça que j'arrivais pas à lui expliquer, voilà.
Tu lui dis, on n'avait pas le choix. Il y avait que eux, donc c'est normal que, mais c'est quand même sous forme, par jumelle, c'est-à-dire par jumelle croisée. Par jumeaux croisés. Et non pas, le frère ne pouvait pas se marier avec sa sœur avec laquelle il a vécu la même grossesse. Tu vois, il fallait que ça soit issu d'une autre grossesse. Et Rabbel Alamin a fait en sorte que, bien entendu, ils aient suffisamment de gènes différents pour que cela ne provoque pas de fragilité dans la descendance. C'est qu'au contraire, l'humanité,
oui.
la consanguinité, etc. Mais s'il y avait consanguinité, forcément, mais elle était moindre par la volonté de Dieu et par le miracle divin. Il a fait en sorte que il y ait ce mariage que soit possible. Pour que ensuite l'humanité puisse se répandre et se propager, sinon ça n'aurait pas pu se faire. Voilà, wallahu alam. Wa barakallahu fik. Merci Sofiane pour cette belle question.
Merci Sofiane, on prendra d'autres appels dans un instant et on continue d'évoquer ce mois de Rajab, Imam Abdelali Mamoun. Je rappelle le numéro du standard 01 53 48 3000 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. On a Nassim qui est avec nous, imam Abdelali. Nassim.
Oui, salam alaikum Nassim.
Oui, salam alaikum. Vous m'entendez bien?
Oui, marhaba bik akhouya Nassim, on t'écoute.
Merci. J'ai une petite question parce que j'ai deux enfants en bas âge, c'est-à-dire 10 ans et demi, garçon et fille.
En bas âge, 10 ans et demi?
Voilà, oui, 10 ans, et demi.
Bah, c'est pas bas âge, ça. Bah,
ça dépend du point de vue où on se place.
Ouais. Non, c'est des enfants, voilà. Des enfants normaux, des normaux, voilà. C'est
D'ailleurs, bon anniversaire au petit enfant qui est avec moi.
Voilà. Et ben, ma fille, c'est pas une enfant en bas âge. Elle a 9 ans. Elle est plus en bas âge. T'as des enfants, on va dire. Ils sont beaux, machin.
Voilà, c'est des jumeaux garçons et filles. Et comme ça, avec le salat. Le problème, c'est que bon, on fait l'Iqama, on fait tout ça, mais j'ai toujours ma fille qui veut absolument faire la salat jahr, donc à haute voix. Mais j'arrive pas à lui expliquer que pour ce que j'ai compris, c'est que pour la fille, c'est une aura, donc elle peut pas le faire à haute voix.
Ah bon, la voix d'une femme est une aura?
Mais c'est ce qu'on m'a expliqué, donc.
C'est une bêtise, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'entendre la voix des femmes.
Pendant la salat.
Pendant la salat. Ah, donc pendant la salat, c'est une aura, et en dehors de la salat, c'est pas une aura.
C'est
complètement absurde. C'est complètement ça. Okay. Alors, je vais te donner une preuve d'une histoire. Oui. Sayyidina Omar ibn Khattab, tu connais le calife Omar, qui était un calife. Oui. Il aimait bien se promener la nuit pour voir ce qui se passe dans les chaumières, dans les familles, dans les maisons. Et comme les murs, ils étaient assez, on va dire, c'était fabriqué avec de la chaux et de la paille, donc on entendait tout ce qui se passait à l'intérieur. Bah, parfois, il passait à côté d'une maison d'une femme qui s'appelle Umm Waraqa, qui était une des rares femmes du prophète, compagnon du prophète, une femme, compagnon, c'est pas une des femmes du prophète, hein. C'est une des femmes d'un des compagnons du prophète, qui mémorisait l'intégralité du Coran, et qui lisait le Coran dans des prières la nuit. Donc, elle faisait ce qu'on appelle Qiyam al-Layl. Et comme elle avait une super belle voix, eh bien, Sayyidina Omar aimait s'asseoir, sous la fenêtre de chez elle. Et il écoutait réciter le Coran, et forcément, pour que puisse l'entendre, elle a forcément récité à voix haute. On est bien d'accord. Sinon, il peut pas l'entendre. Donc ta fille, elle a envie de réciter à voix haute, laisse-la. Et je dis même à toutes les femmes qui sont concernées par la prière, comme les hommes, on est concernés, les femmes sont. Les prières à voix haute doivent se faire à voix haute, y compris pour les femmes. Al-Maghrib, Al-Maghrib ou Al-Isha ou Salat al-Subh, qui sont des prières à voix haute, les femmes doivent la réciter à voix haute. C'est quoi ce délire qui dit que la femme elle doit tout faire à voix basse. C'est faux ça. Mais non, mais c'est parce que ça c'est des misogynies. C'est, ils inventent des règles pour dire à la femme ouais tu dois être discrète, tu dois rester dans ton placard enfermé, dans ton trou, tu dois le plus possible être discrète. Mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire c'est vrai, elle doit pas crier Alhamdou en criant comme une débile la récitation du Coran. Mais normal, Alhamdoulillah Rabbil Alamin, normal, elle récite normal. Quand c'est à voix haute, à voix haute, à voix basse, à voix basse. C'est quoi cette schizophrénie là? C'est limite la misogynie envers les femmes dans le cadre des rites religieux. La femme et l'homme, vous lirez tous les livres de droit musulman, vous diront que tous les musulmans et musulmanes, pour les prières obligatoires à voix haute, eh ben elles récitent à voix haute. Les prières de la nuit, qui sont une prière surérogatoire, elles se font à voix haute. D'accord ? Normal, mais sans crier. Normal, récitation classique.
D'accord, en tout cas,
voilà.
Je
t'en prie, regarde. Merci. Wallahi khali
Nassim. On a Nabil qui est avec nous au 01 53 48 3000. Nabil, bienvenue.
Bonjour, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Marhaba, merci Nabil.
Barakallahu fiik, oustaz.
Fiik baraka.
Jazakallahu fi ilmi.
Wa jazaka khayran.
Ma question est la suivante. En fait, c'est par rapport aux dettes que j'ai et j'ai perdu le contact avec les personnes concerné quoi.
Oui.
Donc comment faire pour s'acquitter de ces dettes?
La niya, simplement l'intention. Tu donnes ni sadaqa ni rien du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent ouais, faut se débarrasser de la dette en donnant sadaqa aux pauvres. Non, ça c'est n'importe quoi. Simplement, tu gardes l'argent, tu le consommes si tu veux même. Tu as le droit de le consommer, puisque si t'en as, si t'as toujours de la réserve, par exemple, tu dois 100 euros à quelqu'un, je donne un exemple, et tu l'as perdu de vue. Eh bien, c'est pas grave. Oui. Tu ahidullah, tu dis ya Rabbi, tu tashahid, tu es témoin. Que si un jour je retrouve cette personne-là, je lui rends son argent. Et si tu meurs avant, ça ne sera pas compté comme une dette.
La niya, alhamdoulilah, elle est là.
Elle est la niya. Par contre, si dans ta niya, dans ton cœur, c'est de jamais rembourser, là, ça sera compté comme une dette. Donc c'est une question de niya. Tu vois, c'est une question d'intention. La niya, ça veut dire l'intention, pour que les gens comprennent.
Oui, barakallahu fiik. Fiik
il baraka. Marhaba, bikra. Adahoua ?
Aïwa,
Allah. Merci. À ton fils.
À ma fille, Diya. Elle s'appelle Diya. C'est vrai que c'est un nom mixte. Hein. Diya est un nom masculin et féminin. En Syrie, il l'utilise plutôt pour les garçons que pour les filles.
Merci.
Et qui signifie source de lumière. Et il est cité trois fois dans le Coran. Un exemple du mot Diya dans le Coran.
Merci Nabil.
Merci à vous.
Au plaisir. C'est vrai que le mois qu'on évoque ce matin, le mois de Rajab, est un mois dans lequel il est recommandé de faire une omra.
Alors justement, non.
Non.
Il n'est pas forcément recommandé de faire une omra pendant le mois de Rajab. Mais c'est vrai que.
Le mois sacré, c'est pas recommandé?
Non, pas forcément, non. Pas du tout, justement. Et alors, quand on dit pas recommandé, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire de omra pendant le mois de Rajab. Ça veut dire qu'il n'y a pas de spécificité qui encourage le musulman à faire une omra pendant le mois de Rajab. Le prophète, justement, c'est pour cela qu'il est intéressant de citer ça, a accompli toutes ses omras pendant le mois de Dhul-Qi'da. C'est-à-dire le 11e mois du calendrier lunaire, qui est lui aussi un mois sacré. Donc les quatre omras qui élaborent le mois, la omra de Hudaybiyah, l'année 6, il a fait une omra mais qu'il a annulée, mais qu'il est quand même parti en état de sacralisation à partir du miqat qu'on appelle Abir Ali ou bien Dhul Hulayfa, qui est juste au sud de Médine, à quelques kilomètres au sud de Médine. Et donc sur 400 kilomètres, il reste en état de sacralisation jusqu'à son arrivée à la Mecque. Donc et sur le chemin à Hudaybiyah, il a annulé, parce qu'il a fait un accord de paix avec les Mécois, et il est reparti sans accomplir la Umrah. Donc c'est cette première Umrah. Ensuite, l'année suivante, il a fait Umrah al-Qadha, c'est l'année 7, donc il a fait une Umrah. L'année 8, après une expédition contre une tribu qui se trouvait, les fameux des Mudariyin, des fameux Mudar qui sont les Qais, la grande tribu des Qais, Hawazin etc. et d'autres tribus, eh bien, en revenant de Jorana, il a fait une Umrah. Et enfin, la Umrah qu'il a accomplie avec le Hajj, la 10e année de l'Hijr, quelques mois avant sa mort. Donc ça fait 4 Umrahs que le prophète a accompli durant sa vie. Mais tous, il les a fait pendant le mois de Dhul-Qi'da, sauf la dernière, qu'il a fait pendant le mois de Dhul-Hijjah, puisque il est arrivé à la Mecque courant du mois de Dhul-Hijjah, mais il est parti de Médine courant du mois de Dhul-Qa'dah, puisque il faut 10 jours hein, à l'époque en chameau pour faire le trajet entre Médine et la Mecque, puisque c'est une moyenne de environ 40 km par jour. Et que la distance étant de 400 km, donc il faut 10 bons jours pour faire le trajet en chameau entre la Mecque et entre Médine et la Mecque, ou bien sûr inversement de la Mecque vers Médine.
Et en TGV, il faut combien de temps ?
Une heure et demie.
D'accord.
Ouais, c'est vrai que ça a évolué.
Ça a changé quand même aujourd'hui.
Ça a évolué, tout à fait, effectivement.
Bien, vous partez quand la prochaine fois,
Imam? Inch'Allah, je pars le 23 février. Ceux qui veulent partir avec moi, ils sont les bienvenus.
C'est pour une Omra, c'est ça ?
C'est une Omra, bien sûr. Le Hajj, ça sera au mois de juillet. J'ai commencé les inscriptions pour le Hajj. J'ai aussi commencé les Hajj par délégation. Ceux qui veulent faire une Hajj pour une personne décédée, ils peuvent aussi m'appeler. Ou une Omra pour une personne décédée. Mais c'est bien pour le décédé qui n'a pas fait le Hajj, c'est que ses enfants organisent pour lui, ou sa famille ou ses proches l'organisent pour lui un Hajj. Donc vous pouvez m'appeler pour qu'on puisse préparer ça, organiser ça, au 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Là, en ce moment-là, je ne peux pas répondre au téléphone, donc laissez-moi un message ou rappelez-moi après l'émission, Inch'Allah. 06 29 25 35 00. Donc, je pars du 23.
Est-ce qu'il faut être vacciné pour aller à l'Omra?
Oui, il faut le pass vaccinal. Voilà. Donc, deux vaccinations minimum. Et puis ensuite il y a tout un protocole, donc notamment le test PCR pour monter dans l'avion aller-retour. Il faut faire un passe saoudien.
Il y a un test.
Après, en arrivant là-bas, on a des applications à intégrer pour qu'on puisse être pisté tout le long du séjour. C'est un pistage qui s'appelle Tawakkalna, qui piste le pèlerin tout au long de son trajet via un numéro de téléphone saoudien que l'on achète sur place là-bas, une puce. Ensuite, il y a une application qui s'appelle Atamarna qui nous permet d'accéder au lieu saint pour y accomplir tous les rites, tout simplement pour pouvoir rentrer dans la mosquée de Médine et de la Mecque. Donc, ce sont deux applications qui rendent les choses un peu plus difficiles. Mais quand vous êtes à l'intérieur, vraiment, vous vous sentez bien parce que vous n'avez pas beaucoup de monde. C'est, vous faites la Omra à l'aise, il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de promiscuité, il y a la distanciation. Voilà, c'est fait pour justement éviter la pandémie, c'est-à-dire une épidémie de gens qui s'agglutinent les uns contre les autres et propagent bien entendu le virus du Covid, de la Covid.
Bien. Donc, voilà. Si vous voulez y aller, c'est maintenant que vous appelez l'imam Abdelali Mamoun.
Au 06 29 25 35 00, du 23 février, je répète, jusqu'au 5 mars. 23 février au 5 mars, 06 29 25 35 00. Voilà.
Et on se retrouve samedi prochain, imam Abdelali.
Inch'Allah.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.